Ciné Alternatif, l'émission prend ses quartiers d'été sur JetFM. Chaque deuxième samedi du mois, en juillet et en août, retrouvez l'émission de La Plume à l'écran, qui vous invite à aller à la rencontre des cinémas autochtones venus des quatre coins du monde. Ciné Alternatif, l'émission de l'été, ce sont deux épisodes spéciaux enregistrés lors d'événements publics marquants de l'année, organisés autour des cinémas autochtones. Bonjour à toutes et à tous. Après un épisode spécial consacré à la rencontre littéraire que la médiathèque du musée du Quai Branly avait organisée en mars dernier, notre deuxième épisode spécial Quartier d'été nous transporte aujourd'hui plus d'un an en arrière. Le 28 février 2019, à la Fémis, à Paris, était en effet organisée par Jonathan Larcher et Allo Pestic une journée d'études qui visait à interroger les tactiques filmiques développées par les mouvements de résistance autochtones. J'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs qui m'ont autorisé à diffuser dans le cadre de cet épisode un extrait des interventions qui ont eu lieu ce jour-là. Et l'intervention que j'ai choisie aujourd'hui est celle consacrée au cinéma zapatiste tel que présenté par Nicolas Desfossés à travers l'expérience de Promedios au Chiapas, au Mexique. De La Plume à l'écran a diffusé à plusieurs reprises dans le cadre du Festival Ciné Alternatif à Nantes des films produits et réalisés par Promedios, et l'intervention de Nicolas vient compléter parfaitement l'article publié dans notre ouvrage collaboratif Cinéma autochtone des représentations en mouvement, dans lequel vous pourrez trouver l'article Promedios, regard collectif, regard contestataire, rédigé par Noé Pineda et que je vous invite donc à consulter. Je tenais vraiment à consacrer un épisode de Ciné Alternatif l'émission à l'intervention de Nicolas pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous nous sommes rencontrés à San Cristobal de las Casas en 2005, alors que j'y étais justement comme militante et observatrice internationale en soutien au mouvement zapatiste. C'est grâce à Nicolas que j'ai pu aller au sein de plusieurs communautés, alors que je m'intéressais déjà à l'époque aux productions audiovisuelles autochtones et au cinéma de lutte. Notre rencontre ne date donc pas d'hier, mais ce n'est pas seulement parce qu'on est resté en lien depuis que je voulais vous inviter à l'écouter. Son intervention me semblait surtout importante, car Nicolas revient de manière très claire sur les origines du processus vidéographique zapatiste, sur le contexte historique qui a mené à l'émergence et à la production de ces films, à comment aussi la communication faisait partie intégrante de la stratégie de lutte zapatiste. Nicolas livre ici un témoignage essentiel, nourri de 10 ans d'expérience en interne, mais avec un regard analytique extérieur en tant que cinéaste français, formé au sein d'une autre tradition de création audiovisuelle. Ce témoignage de première main, du point de vue du terrain, et en français, était trop rare pour ne pas être partagé ici. Alors, quelques mots sur Nicolas avant de vous laisser l'écouter. Il est diplômé de philosophie à l'Université Paris 1. Il travaille dans l'audiovisuel comme monteur, cadreur, producteur et formateur au Mexique. Il a cofondé l'association Promedios France, ainsi que la maison de production Terra Nostra Film. Il est également réalisateur et il a notamment réalisé le film documentaire Viva México, qui suit l'autre campagne zapatiste sur plusieurs mois en 2006. Le film est sorti en 2010 et De La Plume à l'écran l'a accompagné avec d'autres associations alors qu'il a tourné dans de très nombreuses salles en France en 2011. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le DVD auprès de notre association. Nicolas est également coordinateur de l'école de formation cinématographique à San Cristobal de las Casas et il mène aussi une recherche doctorale sur le documentaire de création au Mexique. Il est coordinateur d'un livre à paraître, Cine Politico en México, dont nous vous donnerons bien sûr des nouvelles dès qu'il sera publié. On écoute Nicolas Desfossés lors de son intervention sur le cinéma zapatiste du 28 février 2019 à la Fémis, à Paris. La rencontre était modérée par Sabrina Melenotte, docteur en anthropologie sociale, chargée de recherche à l'IRD, que vous entendrez poser quelques questions à la fin de l'enregistrement. Bonne écoute.
Bonjour. Je précise juste que donc l'association dont il est question, dont on va parler, avec qui j'ai collaboré pendant presque 10 ans, de 2001 à 2009, Promedios de Comunicación Comunitaria, qui au départ s'appelait Proyecto de Medios en Chiapas et qui a aussi une organisation binationale puisqu'au départ c'était une initiative qui venait des États-Unis. Je reviendrai dessus avec une femme réalisatrice qui a eu l'idée en fait de ce projet et qui s'appelle sur son versant américain Chiapas Media Project. Et moi en fait j'ai collaboré avec cette association de 2001 à 2009. Voilà. Donc ça fait plus de 10 ans que je ne travaille plus avec eux là-bas. Je continue de vivre au Chiapas, au Mexique. Mais voilà, je continue dans l'audiovisuel, dans le documentaire. Mais là je vais essayer de revenir sur cette partie que j'ai vécue là-bas où finalement j'ai été très très impliqué pendant plusieurs années. Et pendant assez longtemps, en fait, j'avais pas trop l'idée d'en parler, mais c'est vrai qu'après, on se rend compte qu'on a été acteur d'une histoire où il n'y a pas, en fait, autant de témoins que ça, et donc ça m'intéresse. Je vais pas écrire un livre dessus non plus, je pense, mais ça m'intéresse de laisser une trace ou de transmettre un peu cette expérience d'après mon point de vue qui a été depuis le terrain, on va dire, quoi. Puisque j'ai accompagné énormément d'ateliers, voilà, après des cinéastes, des vidéastes zapatistes. Juste une précision pour commencer, j'ai essayé de donner en fait un cadre historique à chaque étape, resituer un peu le contexte zapatiste général, et après le processus par lequel est passée cette collaboration entre cette association qui amenait des caméras et de la formation dans les villages zapatistes. Mais avant, je voulais juste revenir sur le titre de la présentation Cinéma Zapatista, parce qu'il se trouve que c'est un projet de film documentaire que j'avais écrit il y a 15 ans, que j'avais eu d'ailleurs la bourse Brouillon d'un rêve à la SCAM, qui m'avait été alloué pour s'appeler Cinéma Zapatista, et c'était sur ça, sur le travail des vidéastes zapatistes. J'ai eu la bourse, ça m'a permis d'acheter une caméra, des micros, et en fait j'avais commencé à tourner le film, j'avais même une trentaine d'heures je crois, et après il y a eu l'initiative de l'autre campagne zapatiste qui est arrivée, je me suis mis sur un autre projet, et il se trouve que j'ai fait le film Viva Mexico qui m'a pris plusieurs années, et ce film je ne l'ai jamais fait. Alors la SCAM a été assez gentille avec moi puisqu'ils m'ont permis de changer de projet en cours de route, mais du coup c'est resté un dossier, une intention, et donc aussi ce que je vais raconter un peu c'est ce qui aurait été un peu dans le film, même si évidemment c'est une autre forme, là c'est plus explicatif, pédagogique, mais je vais juste lire pour essayer de plonger un peu dans l'ambiance l'ouverture telle que je l'avais écrite du scénario de ce documentaire, donc voilà, juste pour qui est basé effectivement, j'avais pu écrire le scénario déjà basé sur mon expérience concrète pendant plusieurs années sur place avec les vidéastes. Chiapas, sud-est du Mexique, la végétation dense d'une forêt tropicale. Le soleil de l'après-midi perce à travers les feuillages des arbres. La nature laisse entendre des bruits, les bruits de la faune qui l'habite. Nous suivons deux Indiens qui marchent, machetés au poing, prêts à débroussailler les éventuels obstacles du sentier. Ils avancent d'un pas alerte et portent des sacs en bandoulière. Parfois, ils échangent quelques mots entre eux. Au détour du chemin, nous découvrons un petit village situé dans une clairière. Près d'une chapelle, les paysans du village arrivent de toutes parts. Ils se rassemblent pour l'événement de la soirée. Dans l'air, l'excitation est palpable. Les deux Indiens qui viennent d'arriver discutent avec les autorités du village et sortent de leur sac un magnétoscope, des baffles et un projecteur qu'ils installent face au mur de la chapelle. Sur celui-ci, ils accrochent un drap blanc qui servira d'écran de projection. Ils s'inquiètent de savoir s'il y a de l'électricité dans la communauté ou s'ils devront installer un groupe électrogène pour faire la projection. Alors que les gens finissent de s'installer, ils font une courte présentation en tseltal, langue indienne de la région. Il est à peine 19h, le soleil disparaît derrière les collines, la séance de cinéma en plein air peut commencer. Voilà. Je vais donc venir à qui sont ces personnes qui font cette projection et dans quel contexte ils le font, parce que effectivement c'est des vidéastes, mais plus que des vidéastes, en fait c'est des promoteurs de communication, des promoteurs de vidéos. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre la fonction de la vidéo dans un contexte qui est tout autre que celui auquel on est habitué, plus individualiste, on va dire, dans nos sociétés. Mais bon, je vais d'abord essayer de rapidement parler des antécédents au projet, parce que le projet est lancé en 1998. Un Indien qui marche, macheté au poing, prêt à débroussailler les éventuels obstacles du sentier. Ils avancent d'un pas alerte et portent des sacs en bandoulière. Parfois, ils échangent quelques mots entre eux. Au détour du chemin, nous découvrons un petit village situé dans une clairière. Près d'une chapelle, les paysans du village arrivent de toutes parts. Ils se rassemblent pour l'événement de la soirée. Dans l'air, l'excitation est palpable. Les deux Indiens qui viennent d'arriver discutent avec les autorités du village et sortent de leur sac un magnétoscope, des baffles et un projecteur qu'ils installent face au mur de la chapelle. Sur celui-ci, ils accrochent un drap blanc qui servira d'écran de projection. Ils s'inquiètent de savoir s'il y a de l'électricité dans la communauté ou s'ils devront installer un groupe électrogène pour faire la projection. Alors que les gens finissent de s'installer, ils font une courte présentation en tseltal, langue indienne de la région. Il est à peine 19h, le soleil disparaît derrière les collines, la séance de cinéma en plein air peut commencer. Voilà. Bon, je vais donc venir à qui sont ces personnes qui font cette projection et dans quel contexte ils le font, parce que effectivement c'est des vidéastes, mais plus que des vidéastes, en fait, c'est des promoteurs de communication, des promoteurs de vidéos. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre la fonction de la vidéo dans un contexte qui est tout autre que celui auquel on est habitué, plus individualiste, on va dire, dans nos sociétés. Mais bon, je vais d'abord essayer de rapidement parler des antécédents au projet, parce que le projet est lancé en 1998. Avant ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a le soulèvement zapatiste le 1er janvier 1994, alors je ne vais pas refaire l'histoire, mais enfin c'est la date symbolique de l'entrée du Mexique dans l'ALENA, le traité de libre-échange Mexique-États-Unis-Canada, qui ouvre grandes les portes du néolibéralisme au Mexique, et qui donc a l'implication que le Mexique, dans les années antérieures, adapte ses lois, sa constitution, pour pouvoir signer ce traité. Et notamment, il y a cette vision que les terres, depuis la Révolution mexicaine, les terres avaient toujours été sollicitées régulièrement par des groupes de paysans qui n'avaient pas de terres. Alors, une partie a été faite au moment même, juste dans la suite de la Révolution, mais chaque président, veut dire, chaque allouer des terres et avec des décrets, et ça permettait de constituer des éridos. Éridos, c'est des sortes de une figure légale très spécifique au Mexique où la terre a une propriété sociale collective, en fait, qui évite de pouvoir d'avoir le phénomène des grandes concentrations de terres qu'il y avait avant la Révolution mexicaine avec Porfirio Díaz, où il y avait des énormes extensions de terres aux mains de propriétaires terriens. Donc la figure de l'érido, en gros, dans les années 80, comme dans d'autres pays, il y a ce tournant néolibéral qui se met en place. Et donc, en gros, le message qui est envoyé aux paysans, pas seulement les Indiens, mais les paysans en général au Mexique, c'est de dire, c'est fini cette période, on ne va plus donner de terres, l'État, le président ne va plus donner de terres, on rentre dans une autre logique, et même on met en place des systèmes pour que les personnes qui occupaient un érido, une propriété sociale collective, puissent vendre leurs terres comme une propriété privée, individuelle. Voilà. Donc ça, je dis juste ça parce que c'est vrai que les zapatistes ont insisté beaucoup sur la réforme de l'article 27 de la Constitution, qui est une réforme qui a été mise en place par le gouvernement mexicain au moment de signer le traité de libre-échange, parce que justement, il y a un horizon qui est barré en quelque sorte, c'est-à-dire l'accès à la terre, la possibilité d'accéder à la terre est comme nié tout un coup. Donc il y a plein de revendications dans le mouvement zapatiste, mais on va dire que l'accès à la terre, le droit à la terre, c'est vraiment fondamental dans ce mouvement. Le soulèvement, alors armé, hein, c'est quand même, il y a des morts, enfin, c'est très violent. Ça a été préparé pendant 10 ans. Le mouvement clandestin, c'est quelques personnes en 83, la fondation de l'EZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, c'est la date anniversaire, c'est le 17 novembre 83. Donc, et le soulèvement, 1er janvier 94. Donc il y a 10 ans qui sont passés. Il y a tout un chemin qui les mène à cette décision de prendre les armes. Le fameux cri à Basta. En 1er janvier. La guerre en elle-même, on va dire, dure une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que la société civile mexicaine, internationale, mais mexicaine avant tout, notamment à Mexico, dans les grandes villes, se mobilise très très fortement et donc demande, exige aux deux parties de cesser les combats, à l'État, au gouvernement et aux rebelles, aux insurgés zapatistes. Et là, on a toute une phase, donc pour situer cette période 94-98, où on passe par des périodes de dialogue, où il y a une tentative, des négociations avec le gouvernement plusieurs fois, avec même des textes qui sont signés, comme les fameux accords de Saint-Andrés en février 96, où les zapatistes là avaient vraiment eu l'intelligence de dire le gouvernement évidemment voulait négocier avec le mouvement pour lui donner des choses à lui, mais pas dans une vision des peuples indiens en général au Mexique. Et les zapatistes prennent le contre-pied, c'est-à-dire nous ils disent nous on veut pas des choses qui nous servent qu'à nous, on veut changer les lois, la constitution, pour que ça soit quelque chose qui profite à tous les peuples autochtones du Mexique. Donc c'est pour ça qu'ils invitent d'autres peuples à participer aux négociations, aux discussions, aux tables de réflexion, et aussi des universitaires qui d'ailleurs spécialisent de questions de l'autonomie, puisque ce qu'ils demandaient c'était pas une indépendance évidemment, même s'il y a toujours une désinformation là-dessus, parce que le gouvernement essayait de faire croire que c'était des mauvais patriotes qui voulaient se séparer du Mexique, mais les zapatistes, c'est pour ça qu'ils chantent l'hymne zapatiste et l'hymne mexicain à chaque fois qu'ils font un rassemblement, pour bien dire nous on est mexicains, on veut être des mexicains, pas des, des citoyens de seconde zone, mais des vrais citoyens. Et en même temps, on veut pouvoir voilà, avoir un régime d'autonomie qui nous permet de décider notamment sur les projets qui sont menés sur nos terres. Donc là, voilà, il y a eu pendant plusieurs mois des discussions, des tables de négociation avec beaucoup d'intervenants, donc invités par les apatistes, à l'issue desquels sont signés les fameux accords de Saint-Andrés, qui resteront toujours lettre morte jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les apatistes n'ont jamais rendu les armes. Même si la guerre en elle-même a duré 10 jours, les apatistes se pensent toujours en guerre. Le gouvernement a essayé à maintes reprises d'avoir cet acte symbolique de rendre les armes, mais les apatistes ne l'ont jamais fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des troupes insurgées qui s'entraînent dans les montagnes, dans la clandestinité, et qui sont susceptibles à n'importe quel moment de... Voilà, si la décision est prise par les peuples apatistes, par les communautés civiles, de pouvoir éventuellement à nouveau, ça fait partie du rapport de force, voilà. Mais c'est aussi donc parce que tant que voilà, la Constitution n'aura pas reconnu les droits des peuples et de la culture indienne au Mexique, les apatistes resteront en guerre. Donc dans toute cette période, il y a une stratégie de dialogue, de négociation, et d'un autre côté, le gouvernement lance des opérations directement alors de offensives pour capturer les commandants apatistes, notamment sous commandant Marcos, mais pas que, enfin, il y a tout un ensemble de chefs militaires. Et il y a surtout la stratégie de la guerre de basse intensité qui consiste à utiliser des groupes internes aux communautés pour faire passer les conflits pour des conflits intracommunautaires, voire parfois essayer d'utiliser la religion aussi, et surtout éviter donc cette mauvaise image, cette mauvaise presse, que ça soit l'armée directement qui intervienne, puisque là, quand c'est l'armée, bon, on sait que c'est le gouvernement qui réprime, et donc ça alimente aussi la solidarité internationale, et là, éventuellement. Donc là, la guerre de basse intensité repose beaucoup sur... Alors aussi sur des programmes économiques d'aide au développement et à lutter contre la pauvreté officiellement, mais qui sont... Voilà, dirigé en particulier sur les zones où il y a beaucoup de bases de soutien zapatistes, parce que pour faire partie du mouvement zapatiste, il faut savoir qu'une des conditions, c'est de refuser les aides du gouvernement. C'est-à-dire des aides qui sont parfois, que les zapatistes sont toujours considérées comme des miettes de pain, d'une indignité qui reproduit un système, et au lieu d'aider à justement le rompre, le renverser. Et donc, c'est une des conditions pour être base de soutien zapatiste, il faut... accepter de ne pas recevoir ces programmes qui parfois sont peu d'argent, mais dans le contexte économique évidemment c'est des tensions et c'est des conflits importants pour les familles. C'est pour ça qu'il y a même des personnes qui sont sympathisantes des apatistes mais qui sont pas apatistes, parce qu'être apatiste ça implique un certain nombre de règles et de devoirs très très strictes, quoi. C'est assez spartiate, enfin il y a beaucoup de c'est recevoir les avantages du système autonome, de la santé, de l'école. Mais c'est aussi à faire des tours de garde, c'est aussi ne pas accepter de recevoir les aides de l'État. Voilà. Donc c'est assez strict et ça rigole pas trop, parce que quand on s'en rend compte, ça veut dire des mises à l'écart, voire des exclusions de l'organisation. Voilà. Donc bref, on passe par ces phases donc d'offensive du gouvernement, cette guerre de basse intensité constante avec des pics. Alors 97, massacre d'Acteal, le fameux tristement célèbre massacre d'Acteal dans la zone des hautes terres du Chiapas, où il y a des femmes, des enfants qui sont massacrés par un groupe paramilitaire. Et bon, il y en a pas que là, il y en a d'autres. Et il y a aussi à cette période en 98. Des étrangers qui sont expulsés en masse, puisque au fil des années, bon, il y a une solidarité nationale internationale aussi, qui s'était créée, donc avec des activistes solitaires qui venaient, alors soit comme observateurs des droits humains pour témoigner des exactions, donc les apatistes, en coordination avec des organisations de défense des droits humains, faisaient venir des observateurs pour témoigner quand il y avait des exactions de l'armée. Ou de groupes paramilitaires. Et donc là, il y a tout, par exemple, en 98, il y a toute une série d'étrangers qui se font expulser. Donc c'est juste pour préciser, c'est dans ce contexte-là, 98, justement, qu'a lieu le premier atelier du projet Média au Chiapas, dans ce contexte assez tendu, finalement. Il faut savoir que les apatistes avaient lancé un appel depuis le début, en fait, à la société civile, puisque l'idée, c'était de se passer du gouvernement et de l'État jusqu'à obtenir la reconnaissance des droits, donc refuser les aides de l'État d'un côté et construire des liens de solidarité, de coordination avec la société civile nationale et internationale. Et donc il y avait dans cet appel des apatistes à la société civile des appels à collaborer pour développer la santé, l'éducation et aussi l'accès à l'information et aux moyens de communication. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a une réalisatrice américaine qui s'appelle Alexandra Alkin qui va au Chiapas, je crois qu'en 95, en tout cas très peu de temps après le soulèvement, qui participe à un documentaire, et lors du tournage, elle se rend compte qu'il y a une demande très forte de personnes des communautés apatistes pour avoir accès à ces outils et à se former à ces outils de la vidéo. Et donc elle revient aux États-Unis avec l'idée de voir un peu comment elle pourrait monter ce projet-là, de lever quelques fonds et surtout de se mettre en contact avec des personnes, certes au Chiapas, mais beaucoup aussi à Mexico, à Oaxaca. Oaxaca, à l'époque, avait des antécédents au niveau de la vidéo beaucoup plus développés. C'est-à-dire qu'il y avait une initiative de l'Institut National Indigène dans les années 80 pour faire du transfert de médias, transferencia de medios, comme on dit, c'est-à-dire c'est une initiative qui naît de l'État pour mettre à disposition des communautés des outils vidéo et de la formation pour qu'ils soient eux-mêmes les réalisateurs qui documentent leur tradition, leur mode de vie. Et il y avait un groupe à Oaxaca qui était passé par là et qui était en train d'ailleurs de se détacher un peu, de s'approprier les outils et de plus avoir besoin de l'institution, on va dire. Ça allait devenir des collectifs qui sont, par exemple, Ojo de Agua, qui existent encore à l'heure actuelle. Et qui donc, par exemple, eux ont participé beaucoup aux premiers ateliers au Chiapas parce qu'eux, ils étaient au Mexique, ils avaient cette connaissance directe. Et donc, c'est par exemple ce type de personne que Alexandra Alkin avec qui elle s'est coordonnée, on va dire, et aussi avec des, par exemple, Francisco Vasquez, qui est aussi un des membres, alors des premiers membres, enfin depuis le début et qui est encore à l'heure actuelle d'ailleurs dans l'association, qui lui était un photographe qui venait de Mexico, par exemple, mais qui venait aussi d'un contexte nahuatl, c'était différent. Donc qui avait l'habitude aussi des mécanismes de décision communautaire avec les autorités, des us et coutumes, quoi. Parce qu'un des soucis, c'est voilà comment on communique, c'est pas exactement les mêmes façons, évidemment, que si on fait ça aux États-Unis ou en France, quoi. Donc elle s'appuie sur des organisations qui sont déjà implantées, des personnes qui ont déjà une connaissance un peu du contexte, et elle met en place donc voilà une série de premiers ateliers. Au début, c'est sans aucune garantie que ça va pouvoir continuer. Même si au départ, il y a vraiment ce projet qui est posé d'une pérennité, c'est-à-dire pérennité. En même temps, l'objectif, c'est transferencia de medios, c'est-à-dire on transfère des caméras, du matériel et de la formation pour que les personnes puissent s'en approprier et puissent à un moment être autonomes. Il n'y a pas un calendrier très précis, mais on va dire que quand même l'objectif est celui de, à terme, que les personnes n'aient plus besoin de l'association. Voilà. Alors les premières années du 98-2001, alors, on a effectivement une priorité aussi donnée à la vidéo. Je dis ça parce que vous verrez plus tard, à un moment ça va changer en fait. Mais c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui vient du fait que je pense que Alexandra venait aussi du documentaire et de la vidéo, donc elle a mis ça plus en avant, je pense. Et puis les collectifs de Oaxaca aussi travaillaient davantage la vidéo. Je dis ça parce qu'il y a d'autres médias aussi qui étaient en train d'être développés au même moment dans les communautés apatistes, notamment la radio, qui est un outil de communication communautaire souvent privilégiée, quoi. Mais bon, là c'est vraiment la vidéo qui est travaillée en exclusivité, et donc il y a toute une série de petits films qui sont diffusés. C'est-à-dire que la stratégie aussi au début, c'est que pour générer des financements pour acquérir de l'équipement qui est quand même assez coûteux, et aussi la formation, bon, même si elle repose en partie sur du bénévolat, mais il y a quand même des personnes qui sont sur place et qu'il faut payer, etc. Donc du coup, il y a une stratégie qui est celle développée par Alexandra aux États-Unis, qui est de faire des tournées de projection, notamment dans des universités. Aux États-Unis, les universités payent assez généreusement les présentations et les conférences. Donc elle met en place ça. Et c'est pour ça aussi qu'au début, il y a besoin vraiment assez vite d'avoir des petits films, même si c'est assez simple comme film, c'est des documentations de fêtes, d'événements, ou parfois c'est déjà des moments de lutte collective, où par exemple, ça peut être une situation de, par exemple, à San Andrés, la Ranzar, qui est dans la zone Altos, où les zapatistes, les bases de soutien, donc les civils, hein, pas les militaires zapatistes, les civils doivent venir défendre leur leurs centres, leurs autorités autonomes, par exemple, c'est-à-dire l'endroit de la ville qu'ils ont pris aux autorités officielles et où siègent leurs propres autorités zapatistes. Voilà. Donc là, on a une documentation de certaines choses comme ça. Et petit à petit se développe aussi, alors au niveau du formel, au niveau du langage, c'est vrai que ça prend un peu la direction assez vite quand même d'un dispositif qui est d'écriture certes assez journalistique peut-être, c'est-à-dire beaucoup d'entretiens et d'images qui plus ou moins illustrent les propos. Donc par exemple, il y a un film sur l'éducation en résistance qui est sur l'éducation autonome. Donc on voit des promoteurs d'éducation, des autorités qui expliquent les buts de l'éducation zapatiste, qui donnent aussi le contexte pourquoi il y a besoin d'une éducation autonome, parce que quels sont les problèmes de l'éducation officielle, les profs sont souvent absents, l'éducation qui est donnée est très marquée au niveau de la façon d'enseigner l'histoire. Ils vont à la racine aussi, la discrimination aussi des Indiens dans les écoles. Enfin bref, ils donnent tout le contexte qui motive cette création d'une école autonome zapatiste et ils montrent un peu comment elle fonctionne. On a aussi Tierra Sagrada, la terre sacrée, qui parle justement de cette problématique de l'accès à la terre, pourquoi ça a été aussi important aux racines du soulèvement zapatiste. Mais on va dire qu'au niveau formel, voilà, c'est de mieux en mieux fait. Donc ça culmine aussi avec plusieurs films, dont Tierra Sagrada, dont je parlais, qui sont sélectionnés quand même au festival de Sundance aux États-Unis, qui est même connu jusqu'ici. Et je dis ça pour l'anecdote, mais c'est important parce que c'est une reconnaissance symbolique déjà. Et surtout, ça permet d'ouvrir encore davantage les portes de fondation aux États-Unis pour que le projet qui aurait pu durer un ou deux ans commence à se consolider avec des réseaux de financement qui passent par des fondations notamment, qui avec ce type d'exposition, permettent au projet d'avoir une plus grande solidité. Parce qu'il y a des besoins constants, hein, l'équipement. C'est-à-dire que quand on parle du territoire zapatiste, on parle de 5 zones qui sont assez immenses. Le Chiapas, c'est quand même un territoire qui a une grande extension. Et dans chaque zone, on a plusieurs communes autonomes rebelles zapatistes. C'est-à-dire que les zapatistes, en fait, ils ont superposé à l'administration existante leur propre découpage, avec 5 régions, avec chaque région ayant un centre culturel, politique, où se passent les réunions, où se passent des activités culturelles, où se passent des ateliers, souvent de formation. Donc on a 5 zones, avec à chaque fois, à l'intérieur de chaque zone, plusieurs communes autonomes rebelles zapatistes. Idéalement, donc l'idée, c'est d'avoir des caméras dans chaque commune autonome rebelles zapatistes. Et il y en a plus d'une trentaine, quoi. Avec parfois des conditions dans la jungle, d'humidité, donc du matériel qui est très exposé et qui parfois périclite assez rapidement. Et puis des dents de besoin cassettes, parce que évidemment à l'époque c'est les cassettes. Il y a la question des ordinateurs pour monter. Au début d'ailleurs c'est pas les ordinateurs, c'est encore le montage linéaire. Après, dès les années 2000, ça commence à basculer sur des laptops, enfin des ordinateurs portables qu'on connaît. Moi-même, quand j'arrivais de France, j'étais monteur en France et je ne pensais pas du tout trouver, avec tous les préjugés que j'avais dans la tête, en arrivant au Chiapas, effectivement, je vois l'association, ils avaient Final Cut, un Mac, ça m'avait beaucoup étonné. Mais la technologie, évidemment, avec cette circulation avec les États-Unis, ça arrive assez vite, en fait. Donc voilà, la dynamique de travail, des ateliers vidéo qui souvent se passent au début dans les centres qui, à l'époque, s'appellent Aguas Calientes, donc les 5 centres correspondant aux 5 zones zapatistes. C'est là où des promoteurs, donc comme ils appellent, de vidéos, se rassemblent de toute la région et viennent prendre l'atelier. Et puis on a aussi à un moment une autre étape où il y a des bourses en quelque sorte de résidence. En tout cas, les vidéastes des communautés, les coordinateurs viennent à Saint-Cristobal, donc une ville de 200 000 habitants qui est une des villes les plus importantes du Chiapas où est implanté, où est le siège de l'association, et viennent se former au siège de l'association pendant 2-3 semaines. Parfois ils amènent des rushs et ils les montent sur place avant de retourner dans leur communauté pour transmettre ce savoir. Donc là, je voudrais juste préciser le terme promotor de comunicación, promotor de vidéo. C'est un terme qui était utilisé à l'époque par les mêmes zapatistes, en fait. C'est pas un terme que l'association a créé. Il faut bien voir que l'association, donc, quand elle propose ses ateliers et l'équipement qui va avec, donc elle rencontre les autorités civiles zapatistes et il leur explique en gros le système de l'autonomie en construction. Donc la communication est un des domaines qui effectivement prétend être travaillé pour se développer dans une autonomie. Donc comme il y a des promoteurs de salut, des promoteurs de santé, des promoteurs d'éducation, des promoteurs d'agroécologie, il y a des promotores de communication, promotores de vidéo. C'est-à-dire que les personnes qui sont nommées sont rarement volontaires, d'ailleurs, sont souvent désignées, parce que c'est une charge, un cargo, et donc ça veut dire que c'est pas payé, évidemment. Alors on parle tous, quand même, il faut bien préciser, parce que je veux dire... C'est important, même. Il s'agit toujours de personnes qui sont avant tout des paysans, qui travaillent la terre. C'est leur activité principale. Et c'est pas parce qu'ils vont faire de la vidéo qu'ils vont arrêter d'être paysans. Ils sont pas payés pour faire de la vidéo. Ils prennent sur leur temps, puisque ça fait partie des multiples charges qui incombent aux membres de l'organisation zapatiste. Et eux, ils ont eu à la fois le privilège et la responsabilité. Et donc, ils ont le devoir de se former à ces outils et avec ça, de pouvoir produire des films. Ça peut être la construction de l'autonomie, informer sur les projets d'éducation, de santé. Ça peut être aussi témoigner des exactions de l'armée ou des groupes paramilitaires. Ça peut être aussi témoigner aussi, enregistrer les fêtes traditionnelles, les moments festifs où la communauté se rassemble et fête des événements importants du calendrier zapatiste, puisque les zapatistes ont une sorte de propre calendrier qu'ils fêtent avec leur date anniversaire du soulèvement. Mais ils fêtent beaucoup, par exemple, la mort d'Emiliano Zapata, le 10 avril. Enfin, il y a toute une série de fêtes qui sont propres aux zapatistes. Et aussi, quand il y a des grandes initiatives. Donc, par exemple, en parlant effectivement de 2001, où je fais terminer cette première période, on a en 2001 un changement important au Mexique, puisqu'après 70 ans de dictature du parti unique, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui est celui qui gouverne depuis la Révolution mexicaine, on a pour la première fois un changement de parti politique au pouvoir avec l'élection de Vicente Fox du PAN. Et donc il y a un contexte qui fait que les zapatistes lancent une grande initiative, une marche caravane del color de la tierra, de la couleur de la terre, où ils font les principaux commandants, les 23 commandants et un sous-commandant, le sous-commandant Marcos, vont du Chiapas à Mexico en faisant une caravane qui passe par de grandes villes et font des grands meetings. L'idée est donc, les fameux accords de Saint-Andrés dont on avait parlé tout à l'heure, signés en 96 et jamais appliqués, c'est de faire pression sur le Congrès pour que ces accords de Saint-Andrés soient mis à l'ordre du jour et soient donc éventuellement acceptés, c'est-à-dire entraîner une réforme de la Constitution. Donc il y a cette grande marche qui est très médiatisée à l'époque, le mouvement zapatiste est encore, on en parle encore pas mal, notamment ici. Malgré tout, bon, ça échoue. Il y a notamment ce qui est vécu comme une trahison par les zapatistes, le parti censé être à gauche, qui avait souvent été déclaré sa sympathie, voire sa solidarité avec le mouvement, qui est le PRD, donc, finalement, vote comme les autres partis. Et donc, c'est vécu comme une trahison, qui fait que les zapatistes, qui n'ont jamais de façon marché main dans la main avec un parti politique, mais qui se permettaient quand même d'accepter éventuellement de parler, notamment avec ce parti-là, rompt définitivement les ponts. C'est-à-dire que là, ils ont un message très clair. Ils ont tiré les leçons. On va vraiment plus rien attendre d'en haut, en fait. Et donc, il faut renforcer l'autonomie depuis la base. Ils vont chercher avant tout ce qu'ils faisaient déjà avant, mais vraiment la prioriser exclusivement l'alliance avec d'autres organisations de base. Il y a effectivement la radicalisation de la construction de l'autonomie sur les terres mêmes qu'occupent les zapatistes, avec la naissance des caracoles. Alors les caracoles, c'est ça reprend en fait les 5 centres qui existaient déjà, qui s'appelaient Aguascalientes et qui changent de nom, caracoles, mais qui changent un tout petit peu aussi d'organisation, puisque chaque caracole maintenant, chaque centre régional politique, va héberger un conseil de bonne gouvernance avec des autorités civiles zapatistes qui prennent des décisions de justice et autres par rapport à la vie autonome des peuples zapatistes qui conforment le territoire. Et alors là, c'est le type de matériel qui est produit aussi. C'est-à-dire que là, on est en 2003, il y a quand même pas mal l'équipement a pas mal avancé. Et là, comme il y a des zapatistes qui viennent des 5 zones fêter ce moment, historique pour eux, c'est une date historique. Et ils font venir des personnes des 5 zones. Tout le monde ne peut pas y aller. Et donc le rôle des vidéastes, il y a quand même une dizaine de vidéastes qui filment chacun avec leur caméra puisqu'ils sont de plusieurs zones et plusieurs communes autonomes. Là, on a un montage qui est réalisé. Il y aura deux montages en fait. Il y aura un qui sera réalisé un peu plus vite et qui sera, on va dire, plus long aussi, qui durera 2 heures et qui est souvent copié et qui est envoyé dans les communes autonomes. Parce que ça permet aussi, c'est très important, ça a plusieurs fonctions. Ça permet aux gens qui n'ont pas pu y aller de voir l'événement, de le vivre, parce que tout le monde ne peut pas, pour des moyens matériels, voyager dans ce caracol-là et participer à la fête. Donc, et puis ça a aussi une fonction d'archive qui sert lors des projections. La description que je vous lisais en introduction, ces projections qui sont aussi partie constante des activités des promoteurs à cette époque-là, puisqu'il y a eu aussi la possibilité de s'équiper en projecteur. Donc ils vont projeter dans des endroits où il n'y a même pas souvent l'électricité. On passe ce genre de film, ou de la marche de 2001 dont je vous parlais, ou de la marche, l'initiative des 1111 zapatistes qui était encore avant. Bref, il y a toute une série d'initiatives publiques, y compris des zapatistes. Et cette histoire-là, elle est non seulement archivée, mais elle est aussi montée pour pouvoir être diffusée dans des endroits aussi, où c'est important de le dire, il y a rarement, ça arrive certes, mais il y a plein d'endroits où c'est pas des communautés homogènes zapatistes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est base de soutien et d'autres qui ne sont pas zapatistes. En général, c'est presque la majorité des cas sont ceux-là. C'est-à-dire que, et par contre, quand les promoteurs zapatistes viennent projeter ce genre de choses, ça permet aux zapatistes, aux bases de soutien qui n'ont pas pu voyager de le voir, et ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas zapatistes et qui facilement vont se livrer à une sorte de désinformation en disant oui, mais ce que vous racontez, il y avait tant de monde, mais c'est pas vrai, etc., de voir les choses. Et même ceux qui sont parfois, il y a des situations, il y a des villages où les zapatistes sont minoritaires, et la projection des films transmet une force collective et qui change aussi des rapports de force au niveau d'une toute petite communauté, par exemple. Donc ça, c'est un usage que moi j'ai pu observer directement parce que j'ai accompagné parfois certaines projections. Et donc ça, c'est assez marquant parce que parfois ils passent des films d'événements qui ont lieu des années avant. On pourrait penser que bon, c'est plus d'actualité, etc. Non, c'est quelque chose qui participe de la construction de cette mémoire collective. Il y a toute une partie en fait qui est diffusée à l'extérieur. C'est la partie émergée de l'iceberg. La grande majorité de ce qui est filmé reste dans les communautés à usage interne comme archive. Parfois, il y a des situations où il y a une altercation ou des tensions avec des personnes qui ne sont pas zapatistes. Ceci est filmé, analysé, mais ce n'est pas destiné à être diffusé. Et donc, dans la diffusion externe, il faut vraiment prendre en compte aussi que c'est la diffusion externe à un premier niveau entre les régions zapatistes. Et ça permet aussi d'alimenter aussi la société civile solidaire, les groupes dans d'autres pays ou au Mexique même, qui ainsi peuvent suivre de l'intérieur les avancées de l'autonomie en construction au jour le jour. Donc ça a vraiment plusieurs usages. Et c'est là où intervient l'association au début, c'est-à-dire que les premières années, il y a aussi une impulsion très forte de l'association pour qu'il y ait des choses qui sortent, parce qu'il faut faire connaître le projet, il faut, aux États-Unis notamment, acquérir, trouver, former des réseaux de financement. Donc si on ne voit pas ce qui est produit, c'est très compliqué. Donc il y a une impulsion qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent assez vite, en fait, dans les premières années. Du côté des zapatistes, on a l'impression qu'il y a une grande appétence aussi, très très forte. Donc il y a beaucoup de choses qui sont produites. Et après, c'est vrai que il y a des décisions qui sont prises sur les films, les choses qui restent internes et d'autres qui sont montrées à l'extérieur. Alors là, voilà, c'est là où on arrive la période qui pour moi est la plus, je sais pas si la plus intéressante, mais où je sens que le projet a vraiment, où il y a eu la synergie maximum entre ce que cherchait à construire l'association et ce que cherchaient à construire les zapatistes, qui est pour moi la période, bon, c'est un peu caricatural, évidemment, il y a des exceptions avant, mais cette période de 2002-2005, on va dire, c'est vraiment où l'action, je trouve, était la plus coordonnée. C'est-à-dire que on avait ce moment où les zapatistes avaient avancé encore plus dans l'autonomie avec la création des caracoles, des conseils de bonne gouvernance. Et dans ce cadre-là, l'association avait anticipé d'une certaine façon ça, avait déjà écrit des projets, cherché des financements, évidemment hors du Mexique, hein, parce que pour être une association qui travaille avec les zapatistes, la condition sine qua non absolu, c'était de solliciter aucun financement à l'État mexicain. Donc c'est forcément, ça va passer par des fonds internationaux. Et ils avaient donc trouvé des fonds pour équiper, avoir le concept aussi de centres de médias dans chaque centre régional, dans les 5 centres régionaux. Il y a donc des fonds qui sont cherchés, qui sont levés et qui permettent, dans un moment qui est vraiment qui correspond totalement à la phase dans laquelle ils sont, d'aider à construire, à équiper ces centres régionaux et ces centres de médias, en fait. C'est-à-dire équiper avec un des lieux aussi où ont lieu du coup les ateliers, où les promoteurs qui s'organisent, qui viennent de la région, peuvent dormir sur place, peuvent travailler sur place, peuvent même organiser leurs propres ateliers. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont faits avec des intervenants venant de l'association, beaucoup de bénévoles d'ailleurs aussi, externes, et il y a aussi une auto-formation qui est en place. Et donc ça, c'est une phase assez intéressante, puisque du coup, effectivement, il y a toute une partie de l'activité qui commence à être encore plus coordonnée, autonome, de fait, grâce à ces centres-là. Alors, juste pour dire le type de film qui est produit, bon, il y a donc, on a des films comme Letritas para nuestras palabras, qui est sur l'éducation, mais en mettant l'accent sur ces manuels scolaires. La Lucha del Agua, qui est sur, effectivement, comment améliorer les systèmes d'eau potable. El Huerto de Zapata, le potager de Zapata, qui parle de l'expérience de potager collectif. Donc ça, c'est des films qui sont, en fait, un peu, dont l'origine est aussi des groupes de société civile externe qui travaillent dans les communautés zapatistes et qui sont aussi intéressés à ce que ce travail-là se connaisse, et qui demandent, au lieu que ce soit des personnes externes qui fassent le film, ils demandent aux promoteurs de communication, de vidéo, de réaliser ces petits films. Il y en a d'autres qui sont sur les grandes initiatives, donc on l'a vu là, comme la naissance des caracoles. On a aussi des films impulsés par des individus, ce qui serait la chose la plus classique ici et l'exception en fait là-bas, parce que souvent les films viennent justement, sont sollicités d'une autre instance, mais on a aussi des films comme Son de la Tierra sur la musique traditionnelle tzotzil, La Guerra del Miedo sur l'expérience paramilitaire, Chulum Chom sur une coopérative d'artisanat. Bref, c'est des films qui sont impulsés par un vidéaste. Voilà. Même évidemment en accord avec les autorités, parce que c'est toujours quelque chose où il faut avoir l'autorisation. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est justement ces films qui sont vraiment, dont l'origine vient du même système, du dispositif collectif qui s'est mis en place, avec le système d'autonomie des conseils de bonne gouvernance et des promoteurs de communication de vidéos. Parce qu'après, finalement, même si de 2006 à 2010, il y a des films qui sortent encore, il y a des choses qui se font, malgré tout, c'est souvent avec des choses qui ont été filmées avant. Et il y a petit à petit, progressivement, il y a de moins en moins de films qui sont faits pour l'extérieur, en tout cas. Et alors, ça tient une partie peut-être aux apatistes qui voient moins clairement peut-être la priorité de ce genre de matériel. Et aussi, au sein de l'association, il y a un phénomène qui se passe. Alexandra, la fondatrice qui venait du cinéma, en tout cas du documentaire, s'est un peu distancée avec le projet. Entre-temps, il faut dire que l'association avait commencé comme collectif informel au Mexique. L'association légalement constituée était aux États-Unis, etc. En 2002, il y a quand même ça devient une association au Mexique. Donc, il y a une autonomie au niveau de la recherche des financements, etc. Ça se fait plus depuis les États-Unis, mais depuis le Mexique. Donc déjà, ça permet une autonomisation aussi de l'association au Chiapas. Et après, c'est vrai qu'il y a une vision. Il y a aussi un autre collaborateur qui était là pendant plusieurs années de Oaxaca, Carlos Efraín, qui part aussi de l'association. Bref, ceux dont moi je faisais un peu partie, qui étaient un peu plus sur la vidéo, qui venaient en tout cas de ce langage-là ou de cet univers-là, on devient de plus en plus minoritaire. Et c'est vrai que la vision qui s'impose est un peu celle d'une qu'on appelle la communication populaire, c'est-à-dire la vidéo. Penser comme si la communication populaire était une boîte à outils, la vidéo est un outil parmi d'autres, et il y a une tendance du coup à avoir peut-être moins d'exigences, de considérer la vidéo comme un journal mural ou l'accès à Internet, qui sont des choses cette idée importante, parce que c'est vrai qu'il y a une demande des communautés pour avoir accès à l'information. Et donc, il y a par exemple, on demande aux promoteurs, outre le fait de faire des vidéos, de faire des projections, de par exemple se former à pouvoir maintenir le système d'Internet qui donc se passe par satellite, mais souvent c'est des systèmes où il y a des problèmes techniques qu'il faut savoir réparer, et on ne peut pas faire appel à une entreprise externe pour aller encore en communauté zapatiste. C'est juste un exemple pour dire que les tâches des promoteurs aussi s'amplifient, et l'association, les personnes qui sont, ont un peu changé, et du coup l'impulsion donnée à la vidéo depuis l'association est moindre aussi. Il y a tout un contexte qui fait que petit à petit, il y a de moins en moins de films qui sont diffusés à l'extérieur. Il y a encore évidemment ce travail d'archivage, de filmage, mais ça reste souvent à l'intérieur et c'est pas forcément monté. Mais ceci dit, voilà, en 2010, il y a encore une compilation anniversaire qui est diffusée, qui marche très bien. C'est un peu le paradoxe. En France, en Europe, les films sont beaucoup plus connus parce qu'entre-temps, avec d'autres, on a créé une association Promedios France qui sous-titrait en français et diffusait les films ici en France. Et dans d'autres pays d'Europe aussi, il y a des films qui sont traduits en 5-6 langues, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce paradoxe que les films sont encore plus diffusés qu'avant, mais c'est un moment où de moins en moins il y a de productions qui sont faites pour l'extérieur. Voilà. Et donc, l'association existe encore aujourd'hui. Moi, ça fait 10 ans que j'y travaille plus, mais enfin, je vis toujours à Saint-Christobal, donc je les rencontre souvent. Et c'est vrai que ils sont passés à autre chose, etc. Ils travaillent plus avec les communautés zapatistes. Et il y a une nouvelle génération, juste pour finir, de vidéastes zapatistes, Los Tercios, qu'ils ont rebaptisé Los Tercios Compas. Et donc, c'est des tout jeunes, ils ont une vingtaine d'années, parfois moins même. Et qui, voilà, il semble que ce désir de film renaît avec cette génération, mais pour l'instant, il y a quand même moins de choses moins concrètes, qu'à l'époque. Et surtout, le lien avec cette première génération est pas forcément évident. Et puis, il y a juste, alors vraiment, pour terminer, la question des archives qui, moi, me préoccupe un peu, enfin, pas me préoccupe, mais je me pose vraiment la question. Tout ce qui a été filmé, donc une grande partie est gardée dans les communautés même, dans les centres régionaux souvent, mais enfin, il y a des endroits qui sont dans des conditions d'humidité, donc il y a des cassettes qui sont perdues parce que ça, il y a des champignons, des choses comme ça. Il y a une partie qui est à l'association à Saint-Christobal, mais enfin, dans un déménagement, par exemple, ils m'ont dit qu'il y avait des choses qui s'étaient perdues. Enfin, bref. Et c'est quand même une énorme valeur parce que vous avez vu, on assiste à des situations de l'intérieur. Alors, voilà, la question des archives, je voudrais juste, parce qu'on est dans un contexte où il y a des chercheurs, des contextes universitaires. Et c'est, voilà, c'est une préoccupation. Excusez-moi, j'ai débordé.
Merci beaucoup. J'ai été passionnée. Moi, Nicolas, tu as une expérience à la fois comme réalisateur sur le mouvement zapatiste et aussi de l'intérieur, et ça j'ai trouvé ça assez passionnant. Et je voudrais un peu t'interroger là-dessus, parce que pour une première question, sur ce processus un peu de décentralisation qu'il y a eu au sein de l'organisation zapatiste, qui on est passé finalement d'une imagerie politique très centrée sur la figure de Marcos à une progressive appropriation des communautés de leur propre image. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant au Chiapas, c'est que les Indiens zapatistes sont devenus des sujets de leur propre représentation. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus peut-être ce qu'ils filmaient, au-delà de l'archivage, quoi.
Oui, alors sur les grands sujets, c'était découpé un peu comme j'essayais de raconter sur les moments de fête collective, qui servent des moments du calendrier zapatiste ou des moments où la communauté se réunit. Donc là, on a vu la naissance des caracoles, mais ça peut être d'autres moments comme cela, avec des enjeux aussi de montrer ça aux personnes qui ne peuvent pas assister. Mais après, il y a beaucoup de quotidianité au sein de scènes quotidiennes. Par exemple, je parlais du film Le potager de Zapata. On voit les familles qui vont travailler dans le potager collectif. Après, ce que je disais, ça c'est important, c'est vrai que déjà, c'est jamais des vidéastes professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont avant tout des paysans, et ils le restent, et on va dire que ça c'est quand même... Et les zapatistes sont très attentifs d'ailleurs, ça pourra choquer peut-être certains aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes codes ici. S'il y a quelqu'un qui devient un peu trop protagoniste, on va dire... qui à un moment, parce que c'était une des difficultés, c'est-à-dire les films étant diffusés à l'extérieur, par exemple, il y avait des tournées qui étaient réalisées, les vidéastes allaient accompagner les films, et parfois ça faisait des tensions entre le fait de découvrir d'autres contextes, et donc on est réalisateur, cette figure comme ça, qui attire l'attention, donc ça crée une confiance aussi qui est vraiment intéressante aussi, ça peut créer des conflits internes, quoi. Et les zapatistes, c'est souvent mal compris par de l'extérieur, et c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué à gérer, parce que parfois ça leur est arrivé de personnes douées qui effectivement faisaient bien le boulot, mais en fait qui devenaient qui se détachaient trop du commun, quoi, du collectif. Donc ça c'était quelque chose, mais je dis ça aussi parce que comme c'est une charge qui n'était pas, les gens se réclamaient pas volontairement, enfin ils étaient désignés en général par les autorités, ils nommaient des gens qui en général eux-mêmes ou leur famille avaient prouvé qu'ils avaient un certain degré d'engagement dans le mouvement, quoi. S'il y avait quelqu'un qui venait d'arriver dans le mouvement, ils n'allaient pas le nommer, par exemple, à cette charge. Quoi. C'est... Donc... Et après, sur les profils, il y avait vraiment de tout. C'est-à-dire, il y avait des personnes, en général, ils partageaient ce sens de la responsabilité, c'est-à-dire de se former, faire les efforts, parce qu'il y avait beaucoup, il fallait voyager à droite, à gauche. Parfois, d'ailleurs, ce qui était plus fatigant, c'était pas d'aller tourner, mais c'était de se taper les heures de rush après au montage. Quoi. C'est, souvent, il y a beaucoup de candidats pour aller avec la caméra, parce que c'est aussi, on filme, ça donne un certain statut social, hein, parfois aussi. Voilà, et puis on est dehors, etc. Après, s'enfermer pour voir les rushs, c'est quelque chose qui, parfois, il y a moins de candidats, on va dire. Mais il y avait de tout, vraiment. Et par exemple, moi, je me rappelle, pour prendre un exemple, il y avait vraiment aussi Moisés Roberto Barrios. Je voulais passer un extrait, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Lui, il avait une façon de filmer, par exemple, la récolte collective. C'est des scènes... Enfin, je sais pas, il y a une poésie qui se détache de la façon dont c'est filmé. Il y a un détail des mains, comment les mains attrapent les. Là, c'était en plus c'était du riz dans cette région, c'est assez rare au Chiapas, mais là ils avaient ils cultivaient le riz en commun, donc en collectif. Et il y a vraiment une geste collective là qui était très 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 belle, quoi. Ça, enfin. On avait fait à l'époque, en 2003, des entretiens audio avec les principaux coordinateurs des 5 zones. Enfin, je retrouve ces archives. Et Moïsès, par exemple, je me rappelle, il racontait que lui, pendant qu'il filmait, il se récitait un poème dans la tête. En fait. Alors ça, je prends vraiment le cas. C'était vraiment un poète, ce gars-là, et un paysan. Il est toujours là, d'ailleurs. Hein. C'est un des gars qui continue encore à essayer de former un peu la nouvelle génération là, actuelle. Mais donc, il y avait des choses aussi... Il y a beaucoup de films où c'est vraiment très près des gestes quotidiens impliqués par la construction de l'autonomie. Quoi. C'est-à-dire dans l'agriculture, à l'école. Et après, c'est vrai qu'il faudrait... Je pense que c'est ça qui serait intéressant. Comme il y a une grosse diversité de processus de fabrication des films, il y a 5 régions. Déjà, il y a une diversité au sein du profil des promoteurs. Les 5 régions ont des caractéristiques très différentes. Il y a des étapes très différentes, il y a des processus très différents. Il y en a qui sont plus collaboratifs avec des gens de l'extérieur. Il y en a où ils ont fait tout de A à Z sans aucune... Donc par exemple, il y a une fiction qui a été réalisée sur le thème du guérisseur, El Curandero. Les deux gars qui ont fait ça, ils ont demandé pratiquement à personne, ils ont fait leur petite fiction. Et c'est assez fascinant ce film. Donc il y a vraiment des choses très très différentes. Alors après, il peut y avoir des choses en commun qu'on repère, mais... mais c'est en général quand même moins contemplatif, sauf alors Moïsès, oui, il a une sensibilité personnelle qui transmet, mais il y a aussi beaucoup quand même le fait de il faut montrer le travail aussi, hein. C'est quand même au centre du truc, parce que ce qu'il montre, c'est le travail de l'autonomie en construction. Je me rappelle qu'on avait sur un autre tournage là, des plans à faire et en fait je prenais un angle où on ne comprenait pas l'action, quoi. Et eux, ils avaient quand même tendance aussi à rechercher des plans où on cherche à faire comprendre ce qui est réalisé. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui est en train de réaliser une activité agricole, plutôt qu'une contre-plongée sur son visage pour contempler son expression, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a quand même des choses comme ça. C'est voir ses mains au travail pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais on ne peut pas généraliser non plus. Il y a aussi un truc qui se passait, c'est qu'il y avait des films qui étaient vraiment collaboratifs. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de bénévoles, de gens qui venaient aussi pour soutenir la cause d'Apatiste, et certains qui avaient, étudié aussi des choses d'audiovisuel. Et il y a certaines productions qui sont collaboratives. Et là, si on ne le sait pas, c'est pas évidemment de le décrypter. Je pense que ça peut se voir, mais parfois c'est... Mais c'est d'ailleurs, il y avait une tendance de cacher ça. On disait aussi aux gens de la société civile qui venaient collaborer, en gros, les inviter à être invisibles, c'est-à-dire ne pas mettre leur nom générique ou mettre d'autres noms, etc. Pourquoi, en fait? Parce que ce n'est pas toutes les productions, il y a une certaine... Et c'est intéressant aussi. Donc c'est-à-dire que... Parce qu'après, les films étaient vendus comme c'est des films zapatistes, parce qu'il faut vendre ça comme ça aux États-Unis pour ramener de l'argent, etc. Or, en fait, il y a toute une diversité de productions. Il y a des films comme cette fiction dont je parlais, il y en a d'autres 100% faits, même sans aucun assessorat ni rien. Il y a des films collaboratifs, il y a des films provoqués par des collectifs qui travaillaient pour aider à l'eau, l'éducation. Enfin, donc et puis la sensibilité des gens est extrêmement différente. Donc c'est complexe, quoi, comme sujet. Voilà. Il faudrait aussi faire attention à ne pas homogénéiser tout. Tout le monde filme pareil. Non, il y a une et c'est un travail qui n'a pas été fait, d'ailleurs. Il y a ce nombre de films qui existent. Alors le problème, c'est qu'on ne peut avoir la mémoire des processus de fabrication des films.
Mais enfin, ce travail de voir chaque film, de se rappeler dans quel contexte il a été produit et d'analyser filmiquement ce qui est fait ici, ça serait, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail très intéressant à faire là-dessus.
Oui, mais justement, en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la vidéo, c'est certes un outil de lutte et de résistance. Ça sert à dénoncer des situations de conflit, une répression militaire, ça sert à témoigner, etc. Mais il y a, à mon avis, beaucoup plus, en fait, dans ces vidéos, et c'est peut-être même de l'ordre d'une esthétique. Les zapatistes, effectivement, parlent surtout de communication. Et ces dernières années, ils ont plutôt approfondi la question de l'art avec les festivals comme Comparte. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une esthétique du peuple ou de la révolte ou de la résistance ?
C'est quand même une question, là, il faudrait faire toute une conférence dessus. C'est complexe. Moi, j'ai essayé d'insister sur la diversité des processus dans chaque région, un peu faire une ébauche des étapes. Là, j'ai pas eu le temps de développer ce qui s'est passé après en parlant de l'expérience des vidéastes, donc paysans zapatistes. C'est que petit à petit, il y a eu moins d'ambition. C'est-à-dire d'être juste au niveau de l'archivage, en fait. Et donc, par contre, ce qui s'est développé, comme je disais tout à l'heure, c'est le passe-montagne systématique. Il y a un geste symbolique très fort qui a été réalisé le 21 décembre 2012, qui était la date où on était censé changer d'air dans le calendrier maya, donc ce qui a fait qu'il y a eu une déferlante de toutes sortes de personnes à ce moment-là. Le New Age, enfin bref, assez folklorique à ce moment-là, être au Chiapas. Les zapatistes ont fait un axe symbolique, ils n'ont pas trop prévenu à l'avance, et donc ils ont envahi la ville de San Cristóbal de las Casas, donc, où ils avaient fait, c'était une des villes qu'ils avaient prises le 1er janvier 1994 par les armes. Là, ils sont revenus pacifiquement. On parle de plusieurs milliers de zapatistes, tous alors avec le passe-montagne, et cette espèce de grand corps collectif qui effectivement s'est emparé de la ville, aucun discours, et il y avait une petite estrade où tout se passait, et quand ils passaient, ils levaient le poing en l'air, et c'est tout. Et donc il y avait pour mettre à distance cette figure du leader, justement, montrer que voilà, c'est un grand corps collectif. Donc au niveau d'une performance artistique comme ça, ça fonctionne très bien. Après, il y a eu un communiqué qui expliquait un peu aussi, complétait cet acte. Après, au niveau du documentaire, moi, je t'avoue que j'ai une frustration par rapport à ce que j'ai vu, toutes les promesses qu'il y avait, et j'ai l'impression que le truc s'est cassé. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a une partie, ça venait du fait que c'était plus prioritaire aussi de la part des gens qui étaient dans l'association d'impulser la vidéo pour qu'on aille vers le cinéma même, ça aurait pu aller dans ce chemin-là. Et c'est une autre vision qui... Et les mêmes communautés zapatistes, je pense qu'il y a aussi... il y a une différence de... Je ne sais pas, c'était plus prioritaire pour eux. Après, parfois aussi, c'est ça, dans des organisations comme ça... Les priorités, on ne les connaît pas, c'est-à-dire qu'il y a une situation de résistance et parfois ils ont besoin de mettre leurs forces vives, les gens les plus doués, sur d'autres tâches que de se former à la vidéo. C'est arrivé souvent, il y avait des gens très doués et après ils les changeaient de charge, quoi. Ou certains, ils pouvaient devenir éventuellement avoir des postes à autre responsabilité. Donc on passe à un moment par la charge, mais après... Et donc ça aussi, c'est compliqué parce que ça c'est frustrant aussi quand on fait de la formation, c'est-à-dire qu'on travaille 2-3 ans et puis après tout le monde change, donc on est obligé de repartir un peu à zéro, etc. Et ça c'était aussi une des raisons. À un moment, moi j'y trouvais plus mon compte, quoi, parce qu'il y avait des gens très doués, il y avait des synergies qui se mettaient en place et le truc était cassé, peut-être pour des bonnes raisons au niveau de la, encore une fois, des priorités de la lutte, etc. Et il y avait à un moment d'autres choses, il y avait des situations qui commençaient à être filmées du même réalisateur, là j'ai pas eu le temps, mais il y a un film qui s'appelle La Guerra del Miedo et qui documente des cas d'intimidation. Comment fonctionne la guerre de basse intensité? Comment fonctionne cette guerre d'usure des paramilitaires dans les communautés? Un truc vraiment alors impossible à filmer de l'extérieur. Et ça commençait à être filmé avec des situations d'assemblée. Un peu l'héritage du cinéma direct, par exemple. Et je pense qu'il y avait un truc très très intéressant qui était en train de se passer. Et déjà, ce qui a été laissé est vraiment très intéressant à étudier. Mais voilà, il y a eu un truc qui a été un peu cassé quand même. Et là, alors je ne sais pas ce qui va se passer, il semble qu'il y ait un désir à la fois carrément maintenant de cinéma, c'est comme ça qu'il l'exprime, parce qu'il y a un festival zapatiste il n'y a pas très longtemps, en octobre, novembre, où ils ont invité des gens assez connus. D'ailleurs, il y a eu une première, avant la sortie sur Netflix de Roma, de Cuaron, le film qui a gagné aux Oscars. Ouais. Il y avait des cinéastes mexicains connus qui sont venus, et il y a eu tout un truc qui a fait beaucoup dont on a parlé médiatiquement. J'espère que ce n'est pas juste une opération d'image, de communication, et qu'il y aura un lien qui va se nouer avec ces personnes-là du cinéma mexicain, pour relancer un peu, parce qu'il y a une jeune génération nouvelle. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne sait, je pense. C'est compliqué, quoi. Voilà. Mais bon, on m'a dit de faire court, donc je suis...
Merci beaucoup, Nicolas.
C'était Ciné Alternatif, l'émission Prend ses quartiers d'été, une émission animée et réalisée par Sophie Gergaud pour l'association De la Plume à l'écran et diffusée grâce à Jet FM. Rendez-vous à la rentrée sur les ondes de Jet FM 91.2 pour la troisième saison de Ciné Alternatif, l'émission. D'ici là, bel été à toutes et à tous. N'hésitez pas à réécouter et à partager autour de vous les podcasts des deux premières saisons de notre émission que vous retrouverez sur le site de Jet FM, jetfm.fr, et sur le site de notre association de la plume à l'écran.org. À très bientôt.